redémarrons là où nous en étions, à la naissance de Jésus de Nazareth, et vous allez mieux vous y retrouver dans vos documents, parce que pour le moment, la première partie, je suivais le plan. Vous l'aviez sous forme de plan. Là, vous l'avez dans un premier document sous forme entièrement rédigée. Voilà. Puisque nous entrons dans le Nouveau Testament. Alors, la deuxième partie de cette matinée continue, bien sûr, avec l'histoire. Et là, on va vraiment se concentrer sur l'histoire du premier siècle, qui est non seulement l'histoire du moment, de la période pendant laquelle Jésus vit, mais qui est aussi la période pendant laquelle ses disciples vont vivre et où on va avancer vers la mise par écrit de ces textes que sont les évangiles et au fond notre Nouveau Testament. Donc voilà, une première partie qui est d'abord un cadre historique pour essayer de bien situer les choses. Donc je vous l'ai dit, Jésus naît en moins 4 ou moins 6 avant Jésus-Christ. Hérode le Grand meurt en moins 4. Et là, vous avez dans votre dossier, probablement à la fin, une page qui est beaucoup plus lisible que mon tableau auquel vous ne voyez rien. Je pense que là, vous ne voyez rien. Alors, vous inquiétez pas si vous ne voyez rien, parce que vous l'avez dans le dossier et qu'au fond, il n'y a pas grand-chose à voir. Simplement, ce que je veux expliquer, c'est que Hérode le Grand avait supprimé, par la violence, une partie de ses fils. Il a eu aussi 7 ou 8 femmes, n'entre pas dans le détail. Et beaucoup ont été aussi supprimés. Et à sa mort, 3 de ses fils se voient mis, en partie par lui, à la tête de 3 régions qui sont des parties du royaume d'Hérode. Les 3 régions sont ici représentées par les trois barres horizontales que vous voyez en haut. Ça va ? Verticales que vous voyez en haut. Ça va ? Là. 1, 2, 3. Ça marche ? Qu'est-ce qui est important à savoir là-dedans ? On a 3 régions. L'une, c'est la Judée. L'autre, c'est en gros la Galilée. Samarie-Galilée. Et la troisième, c'est tous les contours. Des fils d'Hérode vont être mis à la tête de ces régions avec des destinées très différentes. En Judée, il y a un fils d'Hérode, Archélaos, vous pouvez oublier son nom, qui va régner pendant 10 d'années, mais il y a tellement de soulèvements dans la population, tellement de rébellions, avec un certain nombre de morts dans des espèces de guérillas ou d'attentats, que en 6 après Jésus-Christ, donc au bout de 10 ans, les Romains reprennent la main, récupèrent cet Archélaos et l'envoient non pas au goulag en Sibérie, mais au goulag en Gaule, à Vienne. Vous allez voir, la Gaule, c'était l'endroit où les Romains envoyaient les gens dont ils voulaient se débarrasser. C'était loin, c'était sauvage. Voilà. Donc Archélaos est exilé et les Romains établissent alors un pouvoir direct sur la région sous la forme d'une légion qui est présente à Césarée et qui monte à Jérusalem pour les fêtes, et sur place, à Jérusalem, un préfet romain. On dit toujours Pilate le procurateur, c'est un titre usurpé. Jusqu'à 40, ce seront des préfets. Et on a une inscription en latin qui nous dit que Pilate était praefectus, préfet, donc mis à la tête de la région romaine, sous l'autorité immédiate de l'empereur, Tibère. Ça va ? Qui va être plus tard Tibère. Première région. Donc cette région, vous voyez qu'elle est sous des préfets à peu près tout le temps, sauf un petit moment entre 40 et 44. Deuxième région, là où naît Jésus, la Galilée. La Galilée qui va être donnée à un autre fils d'Hérode, celui qui s'appelle Hérode Antipas. Alors l'embêtant, c'est qu'ils s'appellent tous Hérode. Enfin, celui-là, on l'appelle Antipas, et il est présent dans le Nouveau Testament. C'est avec lui que Jean le Baptiste aura des démêlés qui conduiront à sa décapitation, celle de Jean, pas celle d'Hérode. C'est lui qui cherche à voir Jésus, c'est lui qui se pose des questions, Luc 9. Hérode se disait, mais qui est celui-ci dont j'entends dire tant de choses ? Est-ce qu'il est Jean-Baptiste revenu d'entre les morts ? Hérode Antipas, que Jésus qualifie de façon assez négative, le renard. Allez dire à ce renard. Alors vous mettez ce que vous voulez sous le personnage du renard, c'est sûr, si ce n'est pas laudatif. Voilà. Celui-là va régner, en fait, sur la région, jusqu'en 39, et là, probablement qu'il avait un peu trop tiré sur les bords, il est exilé à Lyon, cette fois-ci. C'est un peu mieux que Vienne, si on veut. Voilà. En Gaule aussi. La troisième région sera sous la direction d'un autre fils d'Hérode, Hérode Philippe II, qui va durer aussi un certain nombre d'années. Ensuite, on a un petit moment, alors là, on a dépassé la mort de Jésus, hein. Je suis entre 39 et 44, sous le règne de Claude, Caligula, puis Claude, la région est réunifiée et donnée un petit moment, c'est un privilège. En fait, les fils d'Hérode, les suivants, les petits-fils d'Hérode, eux, ils sont allés faire leurs études à Rome. Les fils sont là, les trois qui restent, mais il y a des petits-fils qui vont faire leurs études à Rome et qui sont en gros des gens à la solde des Romains, manipulés complètement par les Romains. Donc il y a les Romains qui remettent là pour quelques années un petit-fils d'Hérode, Agrippa Ier, qui va régner 4 ou 5 ans sur l'ensemble du royaume de son grand-père. Pourquoi je le cite ? Parce qu'on en entend parler dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 12 des Actes des Apôtres, vous avez d'abord une première persécution où Jacques, le fils de Zébédée, est tué, frère de Jean, est tué, et elle est en fait menée, attribuée à ce roi Hérode Agrippa, qui veut se débarrasser de ce trublion encombrant. Or, vous dit le livre des Actes, un peu après, comme il a remporté une victoire sur des puissances extérieures, il fait un grand discours, il se loue lui-même, et où il se présente un peu comme un dieu, c'était la mode à ce moment-là, puisqu'il était victorieux. Et à ce moment-là, dit le texte des Actes des Apôtres, vous le lirez au chapitre 12, il est frappé par une espèce de maladie intérieure et il s'effondre mangé de verre. Bon, il y a eu une mort brutale qui n'a pas probablement pris la forme de ce qui est raconté dans les Actes des Apôtres, qui évidemment voit ça comme une punition de Dieu. En tout cas, celui-là, il ne dure pas longtemps. Et après lui, les Romains en ont assez et ils réunifient toute la région sous le gouvernement d'un procurateur. C'est à partir de 44 qu'apparaissent des procurateurs, ça va ? Voilà. Donc on a toute une série, avec un petit moment quand même. C'est amusant, là. Vous avez un arrière-petit-fils d'Hérode. Encore un Hérode, mais l'arrière-petit-fils. Agrippa II, à qui les Romains, c'est un assimilé romain, et les Romains lui confient pendant un certain temps un morceau du royaume de ses pères. Cet Agrippa II, il apparaît dans les Actes des Apôtres aussi, et il est accompagné de sa femme et demi-sœur ou demi-nièce, c'est compliqué la famille des Hérodes, ils sont tous remariés entre eux, qui s'appelle Bérénice, et qui sera plus tard la maîtresse de Titus. Voilà. Alors, comme Bérénice apparaît dans les Actes des Apôtres, je vous le cite, au chapitre 26, Paul prononce un discours, Paul qui comparaît, il est en prison. Le procurateur le fait comparaître devant Agrippa II et Bérénice qui sont venus là, à Jérusalem, et Paul adresse un discours à ce roi. Voilà. Pour vous dire qu'on a une série, une dynastie des Hérodes, il y en a quatre qui apparaissent dans les évangiles. Ça marche ? Toujours est-il qu'à ce moment-là, la région est sous les procurateurs romains. Or, le problème des procurateurs romains, comme de tout occupant, c'est de tirer le maximum d'impôts et d'argent d'une région. Et les Juifs, qui ont des privilèges que leur avait octroyés César pour bon service militaire, ils ont le droit d'envoyer chaque année un impôt au temple. C'est un privilège exorbitant, parce que normalement, dans l'Empire romain, l'argent, il va des extrémités vers Rome, hein, pas autrement. Ça afflue comme ça. Et là, on a un courant d'argent en sens inverse. Pensez bien que les procurateurs romains, quand ils sont à court d'argent, qu'est-ce qu'ils regardent d'un œil intéressé ? Le trésor du temple. Eh bien oui, qui se remplit chaque année, et qui est très riche, en fait. Et évidemment, les procurateurs romains vont prendre l'habitude de prélever dans le trésor du temple, levée de boucliers, et on a, à partir des années 60, 62, un peu partout dans la région, alors la région tout entière, hein, réunifiée, un peu partout dans la région, des gens qui se soulèvent et la guérilla qui recommence et qui va s'amplifier. Ça va ? Voilà. Donc, grande maladresse des procurateurs que je ne vous nomme pas. Et je reprends en 66. Alors, il y a déjà des chrétiens hein, qui sont par là. Mais je fais le cadre historique. En 66 et de 66 à 70, va se déclencher ce que les historiens appellent la guerre juive. La guerre juive qui est, en fait, des soulèvements pas unifiés, très divers, partout dans le petit territoire juif, depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem et au sud, soulèvements contre les Romains avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des attentats, des actes de guérillera, de guérilleros. Voilà, partout, on assassine, on tue, on se soulève contre l'occupant. Évidemment, le soulèvement va devenir général le jour où le soulèvement, la contestation ayant gagné, même à Jérusalem, les grands prêtres qui sont aux mains des Romains. Mais il y en a un fils de grand prêtre, Éléazar, qui était chargé ce jour-là d'offrir le sacrifice, non pas à l'empereur quand même dans le temps, mais pour l'empereur, et qui interrompt le sacrifice. En fait, ça, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Et à ce moment-là, une véritable guerre commence, qui est à la fois une guerre contre les Romains, mais aussi une guerre civile. Parce que les différents groupes juifs ne vont pas du tout au début s'entendre entre eux. Et ça va être aussi une guerre de factions. C'est horriblement compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que cette guerre nous est racontée par un unique témoin. On a des traces chez les historiens romains. Mais pour un historien romain qui écrit à Rome, la Judée, c'est loin. Hein. C'est vraiment peanuts. Donc, voilà, on a quelques traces. Mais l'historien qui nous raconte ça, c'est le dénommé Flavius Joseph. Flavius Joseph, qui est un juif, comme le dit son nom Joseph, qui a pris, comme beaucoup, Paul de Tarse fera pareil, un nom romain Flavius, pour s'asseoir et pour s'assimiler dans l'Empire où il aura certaines autorités, qui est d'abord essentiellement du côté des pharisiens, peut-être même un pharisien lui-même, mais qui, à mesure que la guerre avance, va passer du côté romain. Il y a un certain nombre de pharisiens qui l'ont fait. Donc, qui est, il faut dire le mot, un traître. Or, c'est lui qui raconte la guerre, et il raconte la guerre à la plus grande gloire de son peuple juif. Donc, voyez le sac de nœuds. Le sac de nœuds, pour nous, historiens, qui lisons aujourd'hui le récit unique, sans trop de comparaison, de quelqu'un qui a participé à la guerre, d'abord d'un côté, puis de l'autre, et qui, s'étant mis du côté du vainqueur, raconte la guerre pour magnifier les vaincus. Donc, on le lit, et, parce que c'est notre source unique, on le lit avec précaution. Voilà. Ce qu'on sait par la grande histoire, c'est que pendant que les Juifs et les Romains se battent et que les Juifs s'entretuent entre eux, à Rome, ça va mal aussi. Rome a envoyé le général Vespasien avec 3 légions et un programme militaire parfait, reprendre la région depuis toutes les bornes et en se concentrant vers Jérusalem. Il balaye tout et à mesure, il nettoie. Mais en 69, à Rome, il y a une série d'attentats, de conspirations qui font qu'on a dans l'année 3 empereurs successifs, tous assassinés. C'est tous des généraux, des chefs de faction, et chacun se fait assassiner par la faction du suivant. Jusqu'au moment où Vespasien est arrivé aux portes de Jérusalem. Il a écrasé toute la campagne en Galilée, Samarie, Judée. Il arrive aux portes de Jérusalem. À ce moment-là, le dernier empereur, Vitellius, dernier général mis au pouvoir à Rome, est assassiné, et des légions fidèles à Vespasien l'Élise empereur à Alexandrie. Alors, Jérusalem est l'Élise empereur pour Rome. Il lui demande de rentrer à Rome. Alors, Jérusalem, c'est bien, Alexandrie, c'est mieux, et Rome, c'est encore mieux. Et vous comprenez bien que Vespasien, il laisse tomber la guerre et il file à Rome se faire élire empereur. D'ailleurs, ça va marcher en plus. Il va fonder une dynastie. Mais qu'est-ce qui se passe sur place? Eh bien, les Juifs reprennent du courage, reconquièrent un petit bout de pays, et Vespasien, étant acclamé empereur, va envoyer son fils Titus recommencer le siège. Le siège qui va être un siège atroce de quelques mois, parce que les Juifs enfermés dans Jérusalem, après s'être assassinés, se réconcilient, et que Titus reprend, d'après Flavius Josèphe, Jérusalem maison par maison, en tuant tout le monde. Il finit par incendier le temple, prendre la ville et tuer entièrement tout le personnel du temple, les grands prêtres, les prêtres, il n'y en a plus un, ne survivent que ceux qui se sont enfuis, en particulier un bon nombre de pharisiens. Vous savez, c'est une histoire qui est assez connue, que deux forteresses juives vont encore résister, un an ou deux ou trois, Maqueronte et Massada, et que là, les derniers résistants juifs préfèrent s'entretuer et puis se suicider plutôt que de se rendre aux Romains. À partir de ce moment-là, la Judée est occupée par deux légions. Il n'y a plus de temple, plus de grands prêtres. Une fois de plus, on a le sentiment que Dieu a abandonné son peuple, vu du point de vue juif. Mais, grâce à quelques pharisiens et rabbis, les rabbis, c'est des mouvements particuliers de pharisiens, qui ont pu s'enfuir. Flavius Josèphe a donné l'exemple. Les autres n'ont pas nécessairement collaboré. Mais qui ont pu s'enfuir et se réfugier au bord de la mer. Jamnia en grec, Yavne en hébreu, c'est au bord de la mer sur la latitude de Jérusalem. Voilà. Si Jérusalem est là, c'est là. Jérusalem est là, c'est là. Et c'est là que petit à petit, ils vont refonder, je vais en reparler, une nouvelle fois, vous voyez chaque fois ce peuple qui renaît de ses cendres, une nouvelle fois, une identité juive. Alors, je vous ai pris une photo qui est très mauvaise, vous ne voyez rien, rien du tout. C'est l'arc de Titus à Jérusalem, à Rome, l'arc de Titus à Rome. Sous l'arc de Titus à Rome, vous avez une frise bien connue qui raconte le triomphe de Titus, c'est-à-dire... Titus rentre à Rome, le fils de Vespasien. Il va être nommé empereur peu après à la mort de son père. Et c'est le triomphe qui est la forme traditionnelle de reconnaissance du général romain. Il rentre à la tête de ses armées et suivent derrière les prisonniers. Là, il n'y en a pas beaucoup, ils ont tout tué. Et les proies, le butin. Et dans ce butin, il y a le chandelier à sept branches que normalement on devrait très bien voir, mais je pas pu m'approcher plus pour prendre la photo. Donc vous irez à Rome, et à Rome, si vous arrivez à vous approcher suffisamment sur le forum de l'arc de Titus, vous verrez le chandelier à sept branches. Ça va? Voilà. Il faudrait que je trouve une meilleure photo. On voit vaguement quand on est très près. Il est tout en haut de la frise. Enfin, là, on a un témoignage archéologique évident de cette victoire et du fait que le temple a été pillé et que les richesses du temple ont été ramenées à Rome avant que le temple soit incendié et totalement détruit. Voilà. Alors, non. Ah, attendez. Voilà. Alors, ceci me permet, ce cadre historique, que je vais arrêter là, on arrive en 70, me permet de vous montrer que on a à partir de 70, un nouveau visage du judaïsme. Et que on va avoir une différence, et c'est ça qu'il faudra arriver à bien préciser, une différence entre le judaïsme d'avant 70, qu'a connu Jésus, qu'a connu Paul, Paul meurt vers 67, on ne sait pas trop, mais quelque chose comme ça, qu'ont connu les premiers disciples de Jésus, qui ont déjà commencé à se disperser. Et le judaïsme d'après 70, qui est un judaïsme très différent, puisqu'il n'a plus ni temple, ni culte, ni grand prêtre, ni lieu, il n'a plus de terre. Les Juifs vont avoir le droit de rester en Judée, et puis à partir de 135, ils n'auront même plus le droit de venir, une fois par an, ça sera rétabli après, à Jérusalem, hein, quand il y a eu d'autres révoltes. Donc on a au fond un Nouveau Testament qui s'écrit dans un monde où deux formes différentes de judaïsme vont se succéder. Ça va, ça, c'est clair? Parce que ce n'est pas facile. Si vous voulez, je peux peut-être partir de... Voilà. D'avant 70. Avant 70, on a un judaïsme extrêmement... J'ai sauté une page. Non. Avant 70, on a un judaïsme extrêmement diversifié. Aujourd'hui, on dit en riant, quand il y a trois rabbins, il y a quatre synagogues. Bon. Mais avant 70, c'était vraiment aussi des groupes très divers. Avec des écoles, on en distingue quelques-uns. Flavius Joseph les distingue. L'histoire a aussi cherché. On distingue d'un côté les sadducéens. Ceux-là, ce sont les grands prêtres. C'est ceux qui, au fond, tiennent le temple. C'est une aristocratie, puisque c'est de père en fils qu'on est grand prêtre. Il faut quand même savoir que, depuis l'occupation romaine, ce sont les Romains qui nomment les grands prêtres. Voilà. Depuis 6 après Jésus-Christ, ce sont les Romains qui nomment les grands prêtres. Vous tirez tout de suite les conséquences. Le grand prêtre, il collabore. Sinon, c'est simple, il disparaît. Il n'y a pas le choix. Donc, Caïphe, qui a duré quelques 20 ans, était évidemment un collaborateur. Sinon, il n'aurait pas été là. On ne peut même pas le lui reprocher. Il y en aurait eu un autre. Voilà. Les grands prêtres sont nommés par les Romains et déposés quand ils ne plaisent pas aux Romains. C'est tout. Ces Sadducéens sont des Juifs, des hommes pieux. Ils ont la tradition du temple et du culte. Ils lisent la Torah et la Torah seulement. Ils ne lisent pas les prophètes. Ils ne croient pas du tout à la résurrection des morts, qui est une croyance qui s'est développée en monde pharisien. Je vais y revenir. Et au fond, voilà, ils vivent de la richesse du temple, qui est une énorme machine. On a dit qu'il y avait peut-être environ 15 000 personnes. Tout Jérusalem travaillait au temple. Les marchands, les agents de change, les gens pour les sacrifices, les prêtres du pays qui montaient à chaque semaine. Une énorme machine et aussi une énorme machine à produire de l'argent. D'où le fait que les Romains voudraient s'emparer de cet argent. Comme autre groupe, vous avez à l'écart dans les évangiles... Alors, je reviens quand même sur les Sadducéens. Dans les évangiles, une chose est claire. Ce sont les grands prêtres, donc les Sadducéens, le groupe des grands prêtres, avec le Sanhédrin qui est le conseil, où siègent quelques pharisiens, quelques rabbis, mais peu, qui est essentiellement leur conseil à eux et le conseil de gens qui sont à leur service. Ce sont eux qui ont poussé Pilate à condamner Jésus à mort. Très clairement, les évangiles sont clairs, clairs, clairs. Même Jean qui dit les Juifs, lisez les récits de la Passion, on voit bien, toujours apparaissent des grands prêtres. Les évangiles les font même venir au pied de la croix. Vous pensez qu'ils ne sont pas venus. La croix, c'était impur. Ils se sont sûrement tenus très, très loin. Mais clairement, ce sont eux qui ont voulu se débarrasser d'un potentiel révolutionnaire qui allait les mettre définitivement mal avec les Romains, avec le peuple d'une part, avec les Romains de l'autre. Ils n'ont pas le droit d'infliger une condamnation à mort. Ils n'ont pas le droit de condamner à mort. Ça revient aux Romains. C'est Pilate qui va le faire. Ça va ? À côté d'eux, des Esséniens dont on n'entend pas parler dans les évangiles, même si des gens disent que dans l'évangile de Jean, il y a des influences, peut-être, hein, des rencontres ou une inspiration. Enfin, on n'entend pas parler, le mot n'y est pas. Ouais. Donc, ce sont ceux qui vivent à l'écart, complètement, en, de toute façon, considérant le temple et les grands prêtres comme impurs. Les pharisiens qui sont omniprésents dans les évangiles, ce groupe, donc, qui est né dans les années 150, de ceux qui avaient effectivement renversé le roi, qui était avec les frères Maccabées pour renverser le roi grec Antiochus. Leur descendance, ce sont ces gens qui sont des séparés, au sens ce sont des pieux, des fidèles. Fidèles à la loi, ils lisent aussi les prophètes. Et leur désir, leur mission, c'est de ramener le peuple à la pureté de l'observance à la loi. D'où cette multiplication des observances et ce débat constant sur les observances qui sont le fait des pharisiens. On le voit très bien dans les évangiles. Il y a un débat de Jésus qui dit « Quand un bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, qu'est-ce que vous faites ? vous le faites sortir. Donc il y avait des pharisiens qui disaient oui, on discute, c'est le sabbat, mais on sort le bœuf. Il y en a qui disaient non. Et Jésus dit, moi, donc je guéris cet homme, même s'il est malade depuis 18 ans. Ça va ? C'était des gens du débat, de la loi, mais d'une loi sans arrêt débattue. Et c'est clair que les principaux interlocuteurs de Jésus dans les évangiles sont les pharisiens, et pas nécessairement, comme la suite le dira en durcissant le groupe, je vais en parler, pas nécessairement ses adversaires. C'était des gens avec qui ils débattaient et dont ils se démarquaient. Ça va, ça ? Eux, les pharisiens, avaient, depuis les années 150, et ça se voit dans le livre de Daniel, j'en parlais tout à l'heure, et dans les livres des martyrs d'Israël, mis en forme quelque chose qui couvait peut-être dans la foi, dans la... Alors on me dit que la foi, c'est la... les juifs n'ont pas une foi. Disons, dans la relation juive à Dieu, la relation du priant juif à Dieu, il y avait certainement une espérance de dépassement de la mort. Mais la tradition voulait que la mort, c'était terminé. Voilà, le judaïsme. Ce n'est qu'à partir des années 150 qu'apparaissent des mises en forme de cette espérance d'une résurrection des morts. Et elle va se mettre en forme lentement, mais disons qu'en quelques dizaines d'années, elle fait partie intrinsèque de la foi pharisienne. On croit qu'il y aura un jugement final à la fin des temps. Dieu jugera et une résurrection finale, un jugement, et Dieu emmènera avec lui et dans son royaume et dans sa paix les justes. Ça va ? Les autres, au début, on dit ben, ils disparaissent, ensuite on va leur inventer des supplices parce que c'est sympa de pouvoir se venger un petit peu, mais ça viendra tard. L'idée, c'est au fond la résurrection et le jugement avec cette vie des justes qui se renouvellera avec Dieu. Ça, c'est la foi pharisienne. Et Jésus est en débat avec ce milieu-là. Qu'est-ce qu'on a encore comme groupe important pour le Nouveau Testament ? Les baptistes, puisque au début de chacun des évangiles, c'est très longuement explicité chez Jean, apparaît Jean le Baptiste, qui est ce fils de prêtre qui s'est retiré au désert, justement, pour se détacher d'un temple trop corrompu et pour prêcher un baptême de conversion du cœur, de repentir des péchés avec un rite d'eau. Et très clairement, les évangélistes Luc et Matthieu font même de Jésus le cousin de Jean-Baptiste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus se manifeste dans la mouvance de Jean-Baptiste. Ça, les évangiles sont tous d'accord. Et chez Jean, c'est Jean-Baptiste qui le montre à ses disciples. Et que Jésus, l'évangile de Jean le dit, au début, baptisait avec Jean-Baptiste et ensuite se sépare de lui. Ces baptistes, ce sont donc des gens qui insistent sur le rite d'eau, mais surtout la conversion du cœur. Le baptême comme conversion du cœur, et qui sont très éloignés, hostiles au temple et au sacrifice d'animaux au temple. Ça, c'est le milieu, j'allais dire, natif de Jésus. Ensuite, il y a le débat avec les pharisiens. Il y en a d'autres qu'on appelle les zélotes, mais à mon avis, ils apparaissent plus tard. Ça va être ceux dans lesquels se recrutent, et finalement, à la fin, ça sera tout le monde, les jeunes qui veulent se révolter contre le pouvoir romain. Donc les zélotes, ça veut d'abord dire les fervents. Paul de Tarse dit sans arrêt, je suis un zélote, j'ai toujours été un zélote, un fou de Dieu. Mais ça n'a aucune incidence sur les choix politiques, ni même ça ne désigne pas une appartenance à un groupe religieux. À partir des années 60, ils se regroupent et prennent ce nom, ceux qui entrent dans la résistance au pouvoir romain. Ça va, ça ? Bon, voyez, ce sont quelques exemples. Il est certain que le judaïsme était encore plus diversifié que ça. Il y a toute la diaspora qui vit dans les synagogues et qui n'a pas de relation avec le temple. On vient à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage. Quand vous habitez Babylone, vous ne venez pas trois fois par an à pied à Jérusalem. Hein ? Certains viennent une fois, d'autres ne viennent même pas. Le livre de Tobie, un livre juif, témoigne de cette possibilité de vivre dans la diaspora en bon juif. Et je vous ai dit qu'en Égypte, on a même la loi en grec qui va se répandre un peu partout. Les chrétiens, les disciples de Jésus de Nazareth, qui se manifestent à partir des années 30 dans ces groupes-là, comment se distinguent-ils ? D'abord, ils sont les disciples de quelqu'un qui a été condamné à mort. À mort par les Romains, ça, j'allais dire du point de vue juif, c'est plutôt sympathique, mais quand même qui a été crucifié. Et ça, ça signifie peut-être que Dieu l'a abandonné. Parce que dans le Deutéronome, il est écrit « Celui qui est pendu au bois », c'est la façon de parler de la crucifixion, une pendaison, « Celui-là est maudit de Dieu ». Et Paul le reprendra. Donc, cet homme qui a donné corps à une espérance messianique, que les Romains ont mise à mort, on pourrait en faire un martyr. Mais son mouvement a disparu, et donc Dieu ne l'a pas soutenu, Dieu n'est pas intervenu pour le sauver. Et le fait qu'il ait été crucifié va poser une grosse question à la conscience juive. Ça va ? Il y a des disciples qui annoncent qu'il est ressuscité. Cela commence à annoncer partout la bonne nouvelle. Au début, ils ne sont pas très gênants. Les Romains se méfient. Mais le monde juif considère qu'au fond, ce sont des... C'est un groupe comme un autre. D'ailleurs, ils vont au temple, disent les actes des apôtres. Ils vont à la prière. Bon, certainement qu'ils honorent le sabbat aussi. Certainement qu'ils continuent à respecter les interdits alimentaires. Aucune raison de s'en inquiéter trop. Et puis, petit à petit, on va trouver que, voilà, ils en rajoutent beaucoup. Ils font des disciples partout. Ils proclament que ce Jésus est ressuscité, que c'est lui le Christ, le Messie de Dieu. Le monde juif va commencer à s'inquiéter. Commencer à s'inquiéter, mais en fait, la vraie difficulté, elle est du côté des gens du temple, ceux qui ont condamné Jésus. Eux, ils passent leur temps à essayer d'arrêter les actes des apôtres, en témoignent les premiers apôtres. Ils y arrivent plus ou moins bien. En tout cas, Pierre s'en va au bout d'un moment. Pierre s'en va et Paul s'en va. Et voilà, il y a une vraie persécution, ou en tout cas une vraie suspicion, et un bon nombre s'en vont. D'autres restent, mais on voit bien que l'hostilité est présente avec, du côté du groupe des grands prêtres, puisque le frère du Seigneur, celui qu'on appelle le frère du Seigneur, Jacques de Jérusalem, qui est resté à Jérusalem et qui probablement, Paul en témoigne, est celui qui regroupe autour de lui la petite église chrétienne de Jérusalem. Jacques de Jérusalem n'est pas condamné à mort par les grands prêtres, mais les grands prêtres soulèvent contre lui la foule et font en sorte que la foule le lapide. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Ou bien on avait recours au pouvoir romain qui pouvait condamner, ou bien si les Romains disaient « moi, vos histoires de religion, j'en ai rien à faire », on pousse la foule, c'est le cas pour Étienne, jusqu'à ce que la foule lapide. Et Jacques de Jérusalem meurt en 62, lapidé par la foule, monté contre lui par les grands prêtres, alors même que les pharisiens étaient intervenus auprès des grands prêtres et avaient tenté de calmer la foule. Donc vous voyez comme c'est compliqué, c'est compliqué. Là, on sait, on a des récits d'Eusèbe de Césarée qui remontent à plus haut et qui disent ça. En même temps, dans ces années-là, vous avez Paul de Tarse, nommé Saul, qui va devenir Paul de Tarse, qui commence à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à Antioche, dans la diaspora, plus loin, et puis vers la Turquie, mais qui fait la chose suivante, il s'adresse non plus à des Juifs, mais à des gens qui sont de purs païens, qui ne connaissent pas la loi juive et qui ne sont pas circoncis. Et là, on voit bien que quelque chose va devenir difficile à vivre. Le judaïsme ne peut plus reconnaître ces gens qui refusent d'être circoncis, qui refusent la loi de Moïse et qui se disent des disciples de Jésus-Christ. La tension va monter. Cette tension, elle monte lentement dans ces années qui sont les années de Paul, entre 40 et 60. Tout au long de la guerre juive, j'allais dire, le problème n'est plus tant de savoir si on respecte ou non ces groupes chrétiens. On dit que beaucoup se sont enfuis de Jérusalem. En tout cas, la question est davantage centrée sur la révolte contre les Romains et les chrétiens ne sont pas un problème. Ou ils se révoltent avec les Juifs, ou ils s'en vont. Pas de problème. Mais après 70, alors là, tout va changer. Parce qu'il y a un nouveau visage du judaïsme, je vous l'avais dit, qui se reconstitue dans cette ville, cet entourage de Yavné, je n'ai pas écrit pareil, enlevez le H à la fin, autour d'un certain nombre de rabbis qui ont fui Jérusalem, dont le rabbi le plus connu est Ben Zakkaï, sans temple, sans culte, qu'est-ce qu'il leur reste ? La loi de Moïse. Il leur reste la loi. Donc, à nouveau, comme ça s'était passé à Babylone, mais ici, on n'a plus de centre religieux, un judaïsme très identitaire qui a pour centre la loi et pour lieu, les familles, parce qu'il n'y a plus de Jérusalem, on ne peut plus y aller. Et donc, pour lieu, quoi ? La famille et les synagogues. Les synagogues qui étaient déjà présentes dans la diaspora, les maisons d'études et de prières. Il y a des maisons d'études, des maisons de prières. On discute aujourd'hui, c'était pareil, peu importe, les synagogues. Voilà. Le judaïsme se reconstitue autour de la loi des synagogues et du coup, il va commencer à se définir par rapport à tout ce qui l'entoure par exclusion. Et il va se définir d'abord en excluant tous ceux qui apparaissent comme des déviants. Alors, les chrétiens ont dit, ils nous ont exclus, puisque dans la grande prière des 18 bénédictions, c'est à ce moment-là qu'on introduit une malédiction contre les minimes et les nazoréïmes. Et les chrétiens sont probablement identifiés aux nazoréïmes. Ce que disent aujourd'hui les savants juifs, j'en ai interviewé un il y a 15 jours par téléphone à Jérusalem, je vous assure, c'est donc la pointe. Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que ce judaïsme, il est surtout vigilant à se resserrer sur lui-même et à refuser toutes les déviances qui pourraient le faire fondre dans le monde romain et dans le monde païen. Parce que maintenant, il n'a plus de lieu, il n'a plus de culte. Et c'est plus facile de se rassembler autour de grands prêtres, de sacrifices, d'un lieu, d'un culte, que de se rassembler autour de la loi et d'observance qu'on pratique en famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce judaïsme, au fond, il refuse tout ce qui est déviant ou marginal. Et donc, les chrétiens vont en faire partie. Ça va? Puisqu'ils prétendent un Christ ressuscité qui n'est pas du tout dans la loi de Moïse. Voilà. Or, on en a effectivement un témoignage quand c'est vu du côté chrétien dans les évangiles où Matthieu, d'une part, mais surtout Jean, et vous aurez les références, constate que certains juifs favorables à Jésus, l'aveugle-né par exemple, et les parents de l'aveugle-né qu'on interroge, se cachent et ne répondent pas parce qu'ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Voilà. Or, les parents de l'aveugle-né, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas des disciples de Jésus, mais ils savent qu'à ce moment-là, tout ce qui est déviant peut être rejeté. Ça va ? Du côté chrétien, évidemment, on va son chemin dans une extension de plus en plus grande qui est l'annonce aux païens. Hein, puisque le principe même de la foi chrétienne, c'est le contraire d'un peuple identitairement défini et qui est là pour garder le nom de Dieu, c'est annoncer au monde entier, annoncer à tous. C'est l'universalisme, ça s'établit petit à petit, on en reparlera, mais ça s'établit. Si bien qu'on peut dire, au bout du compte, et c'est là que je voulais vous amener, que le judaïsme ancien, celui d'avant 70, au fond, après 70, donne naissance, de façon très différente, à deux traditions religieuses qui vont avoir tendance à se définir par opposition. Le judaïsme rabbinique, d'une part, celui que je viens de vous décrire, autour de la loi, et de l'autre côté, le christianisme, qui va peu à peu s'identifier. Donc, en fait, c'est l'entrée des païens, de plus en plus nombreuses, l'annonce aux païens, par Paul, mais aussi par les autres disciples quand ils sont chassés de Jérusalem, qui vont faire entrer des païens dans les groupes, les églises chrétiennes, qui feront qu'en quelques décennies, la déchirure va s'élargir. Mais il faut savoir que tout au long du IIe siècle, dans beaucoup d'endroits, les frontières ont été très floues. Les chrétiens d'origine juive continuaient à observer aussi le sabbat, garder un certain nombre de rites alimentaires et de interdits alimentaires. Les chrétiens, les juifs avaient des rites de purification qui ont parfois se sont confondus avec le baptême chrétien. Il y a beaucoup d'endroits où il a fallu plus d'un siècle ou deux pour que les différences et que la rupture se consomme. Ça va, ça ? Voilà. Alors, où j'en suis ? Eh bien, où est-ce qu'on en est ? On en est à midi, il nous reste un quart d'heure, et donc, moi, avant de continuer, je vous propose de réagir et de me dire si vous avez des questions. Ça a un petit peu changé, non ? Ça va pas ? Il y a le micro qui tombe à chaque fois. Donc, vous avez entendu, c'est à vous la parole. On a 10 minutes, on peut... Osez poser les questions, parce que c'est comme ça que d'autres y verront plus clair. Voilà, il y a une question là-bas. Attendez. Parce qu'on ne vous entend pas. Tu apportes le micro à la dame ? On va vous apporter le micro, sinon ce n'est pas possible. Oui, un autre. Bon, si vous y arrivez, dites-nous. Alors, je crois que j'ai compris votre question, je la répète. La question est celle du passage de l'oral à l'écrit. Comment est-on passé de cette proclamation de la bonne nouvelle ? Évidemment, d'abord orale. Ils ont rencontré le ressuscité, ils l'annoncent autour d'eux, ils ne se mettent pas à écrire. D'ailleurs, la plupart sont un peu analphabètes. Donc, passage des traditions orales qui vont naître à l'écrit que nous avons, le Nouveau Testament. Passage simultanément de l'araméen que parlait Jésus au grec de nos évangiles. C'est ça la question ? Alors, réponse, c'est l'objet de cet après-midi. Alors, réponse aussi plus sérieuse, ça s'est fait dans le temps et lentement. Et lentement, parce que je vais le dire cet après-midi, les tout premiers disciples, ils attendaient la venue du Seigneur et même Paul de Tarse pour dans pas très longtemps. Et quand on attend le Seigneur qui va revenir à échéance de 1, 5, 10 ans, on ne se met pas nécessairement à écrire pour la postérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Que d'autre part, tant que les témoins sont là, ils témoignent. Le christianisme est une religion du témoignage. Et on a au IIe siècle, vers 120, un témoignage justement de l'évêque Polycarpe qui dit « J'étais en train d'essayer de rassembler des écrits. Quand j'ai appris que venaient des gens, qu'arrivaient des gens qui avaient connu les apôtres, j'ai tout planté là et je suis allée les rencontrer, car rien n'est à la hauteur du témoignage vivant. » Donc, en 120 après Jésus-Christ, l'oral était encore considéré comme bien supérieur à ce qu'on a pu mettre par écrit. Voilà. Mais on en reparle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on ne croit pas à l'au-delà. Non. C'est une bonne question. Étonnement, un monde juif qui ne croit pas à l'au-delà, il apparaît assez clairement quand vous lisez l'Ancien Testament qu'il n'est absolument pas question d'une vie après la mort dans la Torah et que la question de ce qui se passe après la mort n'apparaît que de façon très marginale dans les psaumes où, au fond, vous avez... un véritable chantage, parfois fait à Dieu par le suppliant. Si tu ne me sauves pas, je ne pourrai plus te louer. Qui, au Sheol, connaît ton nom ? Connaît-on ta fidélité au royaume des morts ? Les psaumes en sont pleins. Et qui va célébrer ta justice dans le pays de l'oubli ? Donc, ces psaumes qui sont, au fond, l'expression de l'âme fidèle à Dieu, d'Israël, la plus haute comme expression finalement spirituelle et poétique, ces psaumes témoignent encore d'une représentation de la mort comme ce qu'on appelle le Sheol, l'Hadès des Grecs, un lieu triston où les souffle où les âmes qui n'ont pas été suffisamment honorées errent, mais qui est vraiment un lieu sans consistance et sans vie. L'homme qui a une vie pleine, c'est celui qui meurt chargé d'ans et du résultat du travail de ses mains, avec une grande descendance. Finalement, ce qui compte dans le monde juif, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est pas la vie après la mort, c'est la transmission. Moi, je connais des rabbins qui me disent « Si mes petits-enfants transmettent, moi j'ai gagné, je meurs en paix. Voilà. » C'est la transmission. Alors, n'empêche que l'âme religieuse d'Israël, comme toute âme religieuse, s'est posée des questions très vite. Et on voit bien dans les psaumes. C'est amusant de regarder de près, c'est un peu technique, mais quand vous regardez de près, la traduction des psaumes en hébreu vers 200, ou entre 150 et 200 avant Jésus-Christ, en grec, vous voyez que dans la traduction grecque apparaît l'idée qu'il y a une vie après la mort. On est là au tournant. Et quand ils traduisent en grec, ils le font émerger. Voilà. C'est vraiment, tu vas arracher ma vie, non pas à la maladie, à la mort, mais tu vas me faire revivre, remonter du Sheol, remonter de l'Hadès, remonter des morts. C'est donc dans ces années-là, on dit toujours que la prise de conscience la plus nette s'est faite au moment de la guerre des frères Maccabées contre le grec. C'est là que la prise de conscience a été la plus nette. Mais ça ne peut pas être daté à l'année près, ça s'est fait dans un mouvement des mentalités et de la pensée religieuse. Mais c'est sûr que ce sont les groupes pharisiens qui ont essayé de mettre en forme cette espérance du fait que la mort n'arrêtait pas le dialogue avec Dieu, la vie devant Dieu, et que Dieu ressusciterait les morts au dernier jour, avec jugement. Voilà. Et ça se met en forme dans les années 160, 150. Je dis ça se met en forme, c'est-à-dire que ça apparaît sous forme littéraire. Nous, on n'a que des traces littéraires. Qu'est-ce que pensaient les gens avant ? Qu'est-ce qui était le cœur de l'âme religieuse juive ? Vous ne pouvez pas le savoir. Il y en avait certainement qui espéraient que Dieu les garderait avec eux dans la mort. Mais ça n'avait pas pris la forme littéraire qui bientôt va être imaginée et imagée que ça prend dans le monde pharisien. Et ça date de à peu près 150. Ça va ?
Et il me semble que dans la tradition juive, l'idée de la nature de Dieu est qu'il est juste.
Oui.
Et que une grande différence avec le christianisme, c'est que pour les chrétiens, leur idée de la nature de Dieu, c'est qu'il est amour. Est-ce qu'on trouve dans la tradition juive cette même idée ?
Alors, vous viendrez quand je parlerai de l'Ancien Testament, quand même, parce que le Dieu amour, il est très, très, très présent dans la tradition juive. Oui, Dieu est juste, mais la justice de Dieu, et Paul le découvrira très bien, la justice de Dieu consiste à toujours offrir une nouvelle chance. Et que Dieu est amour, le prophète Osée, qu'on date de 740, 730 avant Jésus-Christ, vous le dites de façon magnifique avec deux images extraordinaires. L'image du Dieu amoureux que sa femme trompe abondamment et pour aller se prostituer et qui lui court après et qui la reprend et qui lui dit « Je te ramènerai à moi, je te fiancerai à moi dans la tendresse et la fidélité ». Enfin, c'est inouï, le chapitre 2 et 3 d'Osée. Ou qui compare Dieu à un père qui prend son fils et l'élève contre sa joue. Vous avez dans Isaïe le Dieu mère qui dit « Une femme oublierait-elle ? » Alors, après avoir condamné, dénoncé avec violence tous les péchés des fils d'Israël, hein, c'est vraiment une horreur. Mais je ne peux pas t'abandonner. Une femme abandonnerait-elle ? Oublierait-elle son enfant que moi je ne t'oublierai pas ? Tu es gravé sur la paume de mes mains. Enfin, on a des textes inouïs. Donc, le Dieu amour, il est là depuis longtemps. Après, que Dieu soit juste, c'est une exigence de l'âme humaine qui est présente à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Dieu peut être juste et être infiniment miséricordieux. On ne sait pas ce qui se passe chez les pires criminels dans les derniers moments, dans leur face-à-face avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Dieu est juste dans le Nouveau Testament, ça ne veut pas dire exactement ça, en tout cas chez Paul. Ça veut dire que par le Christ, Dieu nous rend juste, nous réajuste à lui. Dieu, il est juste en tout ce qu'il fait. Et sa justice est miséricorde et bonté et patience. Mais Dieu nous réajuste à lui. C'est ça que ça veut dire. Ça va ?
Il y a encore un peu de temps. Oui.
Oui, le Christ était plus proche des pharisiens qui croyaient en la résurrection des morts que des sadducéens.
Ah, complètement.
Comment se fait-il qu'il ait autant critiqué les pharisiens dans les évangiles sans s'appuyer sur eux pour faire passer son message de foi en la résurrection ?
La question est excellente et montre que j'ai laissé un trou dans ce que je voulais vous dire, même si je le dirai après, mais j'ai laissé un vrai trou. C'est après 70 que le durcissement des relations entre le nouveau judaïsme, le judaïsme rabbinique, et les groupes chrétiens va faire apparaître chez certains évangélistes, notamment Matthieu, va être représenté chez certains évangélistes comme un conflit qui va se durcir entre Jésus et les pharisiens. C'est-à-dire que ça, c'est une relecture, une projection de ce qui se passe après 70 sur la période de Jésus, sachant bien que Jésus a toujours discuté avec les pharisiens et n'était pas d'accord avec eux, pas toujours. Notamment, n'était pas d'accord avec eux sur le fait que le retour du peuple à Dieu passait par l'observance stricte de 613 commandements. Donc il y avait un débat, mais un débat qui restait quand même dans les termes, j'allais dire, courtois ou pas courtois, du débat juif. On avait le droit de penser que l'autre était à moins que rien, mais on ne s'entretuait pas. Dans les récits de la Passion, vous ne voyez plus apparaître les pharisiens. Les pharisiens apparaissent jusqu'à la porte des récits de la Passion dans les évangiles. Relisez vos évangiles, vous verrez. Et après, ils disparaissent. Ce n'est pas eux qui ont mis Jésus à mort. Par contre, on a, avec l'évangile de Matthieu notamment, le chapitre 23, les malédictions aux pharisiens, le durcissement de la figure du pharisien qui devient la figure du repoussoir par rapport à la proposition évangélique. Ça, c'est un trait très clair des tensions d'après 70. Est-ce que ça va ?
Oui, une autre question concernant, pour revenir à la notion du Dieu juste et du Dieu miséricordieux, ça fait penser à l'arbre des séphirotes et à la Kabbale. Comment se situe-t-elle ? Comment est-elle apparue ?
C'est trop difficile pour moi. La Kabbale, c'est quand même des mouvements interne au judaïsme, ou sur les marges du judaïsme, qui apparaissent, on ne sait pas, mais entre le 6e et le 10e siècle, et qui se développent. Et c'est vraiment, à mon avis, des spéculations internes au judaïsme, dont le christianisme a eu écho, il y a même une cabale chrétienne, mais elle est infiniment plus modeste, qui va emmener très très loin sur la réflexion autour du Dieu un. On a un peu, on peut dire, avec complètement d'autres termes et d'autres moyens, la même réflexion et purification de l'idée de Dieu qui va vers une transcendance extrême, complètement séparée de l'humanité, du côté de la Kabbale et du côté de l'être des philosophes dans le monde chrétien. Des deux côtés, on pousse à l'extrême la distance entre Dieu et l'homme, et après, on cherche les moyens de rejoindre Dieu et l'homme. Or, le christianisme dit quand même, Dieu s'est approché des hommes au point de se faire homme en Jésus-Christ. Il n'est plus si loin que ça. Voilà. Mais la Kabbale, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Bon, je crois qu'il est midi et quart et que Aude, est-ce qu'elle est là, Aude ? Aude voulait reprendre, à moins qu'il y ait encore une autre question brûlante. Bon, Aude voulait reprendre la parole. Donc, vous avez donc, il y a un quart d'heure avec Aude pour ceux qui veulent, et les autres déjeuners, on reprend à 1h30.
Rien à ajouter. Ah oui, oui, ceux qui veulent, bien sûr, parler du CIF en général et autres. On est plusieurs à être là, vous regardez ceux qui ont des badges, et les autres 1h30.